La guerre des Gaules par Jules César. Suite du livre 1. 28. Dès que César en fut instruit, il ordonna au peuple sur les terres desquelles il pouvait passer de les poursuivre et de les ramener, s'ils voulaient rester innocents à ses yeux. Ils furent livrés et traités en ennemis. Tous les autres, après avoir donné otages, armes et transfuges, reçurent leur pardon. Il ordonna aux Helvètes, aux Thulinges, aux Latobis de retourner dans le pays d'où ils étaient partis. Comme il ne leur restait plus de vivres et qu'ils ne devaient trouver chez eux aucune subsistance pour apaiser leur faim, il ordonna aux Allobroges de leur fournir du blé. Il enjoignit aux Helvètes de reconstruire les villes et les bourgs qu'ils avaient incendiés. La principale raison qui lui fit exiger ces choses fut qu'il ne voulait pas que le pays d'où les Helvètes s'étaient éloignés restât désert, dans la crainte qu'attirés par la fertilité du sol, les Germains d'Outre-Rhin ne quittassent leur pays pour celui des premiers et ne devinssent les voisins de notre province et des Allobroges. À la demande des Éduins, les Boïens reçurent, à cause de leur grande réputation de valeur, la permission de s'établir sur leur propre territoire. On leur donna des terres, et ils partagèrent plus tard les droits et la liberté des Éduins eux-mêmes. Un document sur leur nombre. 29. On trouva dans le camp des Helvètes des registres écrits en lettres grecques et qui furent apportés à César. Sur ces registres étaient nominativement inscrits ceux qui étaient sortis de leur pays, le nombre des hommes capables de porter les armes, et séparément celui des enfants, des vieillards et des femmes. On y comptait en tout 263 000 Helvètes, 36 000 Thulinges, 14 000 Latobis, 23 000 Roraques, 32 000 Boïens. Il y avait parmi eux 92 000 combattants. Le total s'élevait à 368 000 Gaulois. Le nombre de ceux qui rentrèrent dans leur pays fut, d'après le recensement ordonné par César, de 110 000. Les Gaulois implorent le secours de César contre Ariovistes. 30. La guerre des Helvètes étant terminée, des députés de presque toute la Gaule et les principaux habitants des cités vinrent féliciter César. Il savait bien, disait-il, que sa guerre contre les Helvètes était la vengeance des injures faites au peuple romain. Mais la Gaule n'en tirait pas un moindre profit que la République, puisque les Helvètes n'avaient quitté leur ville, dont l'État était si florissant, que dans le but de porter leurs armes sur tout le territoire des Gaulois, de s'en rendre maître, de choisir parmi tant de contrées afin de s'y établir, la plus riche et la plus fertile, et d'imposer des tributs au reste des cités. Ils demandèrent à César la permission de convoquer l'assemblée générale de toute la Gaule. Ils avaient une prière à lui faire en commun. Cette permission accordée, ils fixèrent le jour de leur réunion et s'engagèrent par serment à n'en rien révéler que du consentement de tous. 31. Quand cette assemblée fut close, les mêmes citoyens qui s'étaient déjà présentés devant César revinrent vers lui et demandèrent qu'il leur fût permis de l'entretenir en particulier, touchant leur sûreté et celle de tous les Gaulois. Ayant obtenu audience, ils se jetèrent à ses pieds en versant des larmes et le prièrent aussi instamment de leur garder le secret sur leur révélation que de leur accorder l'objet de leur demande. Car si leur démarche était connue, ils se verraient exposés au dernier supplice. L'Éduin Diviciacos prit pour eux la parole et dit que deux partis divisaient la Gaule. L'un avait les Éduins pour chef, l'autre les Arvernes. Après une lutte de plusieurs années pour la prééminence, les Arvernes, unis aux Sécanes, attirèrent les Germains en leur promettant des avantages. 15 000 de ces derniers passèrent d'abord le Rhin. La fertilité du sol, la civilisation, les richesses des Gaulois, ayant charmé ces hommes grossiers et barbares, il s'en présenta un plus grand nombre, et il y en a maintenant 120 000 dans la Gaule. Les Éduins et leurs alliés leur ont livré 2 combats, et ont eu, outre leur défaite, de grands malheurs à déplorer, la perte de toute leur noblesse, de tout leur sénat, de toute leur cavalerie. Épuisé par ces combats et par ces revers, ce peuple, que son propre courage ainsi que l'appui et l'amitié des Romains avaient précédemment rendu si puissant dans la Gaule, s'était vu forcé de donner en otage aux Sécanes ses plus nobles citoyens et de s'obliger par serment à ne jamais réclamer pour sa liberté ni pour celle des otages, à ne point implorer le secours du peuple romain, à ne pas tenter de se soustraire au joug perpétuel de ses vainqueurs. Il est le seul de tous ses concitoyens qu'on ait pu contraindre à prêter serment ni à donner ses enfants en otage. Il n'a fui de son pays et n'est venu à Rome demander du secours au Sénat que parce qu'il n'était retenu par aucun de ces 2 liens. Mais les Sécanes vainqueurs ont éprouvé un sort plus intolérable que les Éduins vaincus. En effet, Ariovistes, roi des Germains, s'est établi dans leur pays, s'est emparé du tiers de leur territoire, qui est le meilleur de toute la Gaule, et leur ordonne maintenant d'en abandonner un autre tiers à 24 000 Arrudes, qui, depuis peu de mois, sont venus le joindre et auxquels il faut préparer un établissement. Il arrivera dans peu d'années que tous les Gaulois seront chassés de leur pays et que tous les Germains auront passé le Rhin, car le sol de la Germanie ne peut pas entrer en comparaison avec celui de la Gaule, non plus que la manière de vivre des 2 nations. Ariovistes, une fois vainqueur de l'armée gauloise dans la bataille qui fut livrée à Admagetobrige, commanda en despote superbe et cruel, exigea pour otage les enfants de tous les nobles et exerce contre eux tous les genres de cruauté, si l'on obéit aussitôt à ses caprices ou à sa volonté. C'est un homme barbare, emporté, féroce. On ne peut supporter plus longtemps sa tyrannie. Si César et le peuple romain ne viennent pas à leur secours, tous les Gaulois n'ont plus qu'une chose à faire. À l'exemple des Helvètes, ils émigreront de leur pays, chercheront d'autres terres et d'autres demeures éloignées des Germains et tenteront la fortune, quel que soit le sort qui les attende. Si Ariovistes venait à connaître leur révélation, nul doute qu'il ne livra tous les otages en son pouvoir au plus affreux supplice. César, par son autorité, par ses forces, par l'éclat de sa victoire récente, et avec le nom du peuple romain, peut empêcher qu'un plus grand nombre de Germains ne passent le Rhin pour défendre la Gaule entière contre les violences d'Ariovistes. 32. Divisiacos cessa de parler, et tous ceux qui étaient présents, fondant en larmes, implorèrent le secours de César. Remarquant que les Sécanes seuls s'abstenaient de faire comme les autres, que, triste et la tête baissée, ils regardaient la terre, César s'étonne de cet abattement et leur en demande la cause. Ils ne répondent rien et restent plongés dans cette tristesse muette. Il les presse à plusieurs reprises sans pouvoir tirer d'eux aucune réponse. Alors, l'Éduin Divisiacos reprend la parole. « Tel est, dit-il, le sort des Sécanes, plus malheureux encore et plus intolérable que celui des autres Gaulois. Seuls, ils n'osent se plaindre, même en secret, ni réclamer des secours, et la cruauté d'Ariovistes absent leur inspire autant d'effroi que s'il était devant eux. Les autres ont du moins la liberté de fuir, mais les Sécanes, qui ont reçu Ariovistes sur leur terre, et dont toutes les villes sont en son pouvoir, se voit forcé d'endurer tous les tourments. Essai de négociation avec Ariovistes. 33. Instruit de tous ces faits, César relève par quelques mots le courage des Gaulois et leur promet de veiller sur eux dans ces conjonctures. Il a tout lieu d'espérer que, par reconnaissance et par respect pour lui, Ariovistes mettra un terme à ces violences. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Ses plaintes et beaucoup d'autres motifs l'engageaient à s'occuper sérieusement de cette affaire. D'abord, il voyait les Éduains, que le Sénat avait souvent appelés du titre de frères et d'alliés, asservis comme des esclaves à la domination des Germains. Il les voyait livrant des otages entre les mains d'Ariovistes et des Sécanes, ce qui était honteux pour lui-même et pour la toute-puissance du peuple romain. Il voyait en outre le péril qu'il y avait pour la République à laisser les Germains s'habituer à passer le Rhin et à venir en grand nombre dans la Gaule. Ces peuples grossiers et barbares, une fois en possession de la Gaule entière, ne manqueraient pas, sans doute, à l'exemple des Cimbres et des Teutons, de se jeter sur la province romaine et de là sur l'Italie, d'autant plus que la Sécanie n'était séparée de notre province que par le Rhône. César pensa donc qu'il fallait se hâter de prévenir ces dangers. Ariovistes, d'ailleurs, en était venu à un degré d'orgueil et d'arrogance qu'il n'était plus possible de souffrir. 34. Il résolut donc d'envoyer à Ariovistes des députés chargés de l'inviter à désigner, pour un entretien, quelques lieux intermédiaires. Il voulait conférer avec lui des intérêts de la République et d'affaires importantes pour tous deux. Ariovistes répondit à cette députation que s'il avait besoin de César, il irait vers lui, que si César voulait de lui quelque chose, il eût à venir le trouver. Que d'ailleurs, il n'osait se rendre sans armée dans la partie de la Gaule que possédait César, et qu'une armée ne pouvait être rassemblée sans beaucoup de frais et de peines. Enfin, qu'il lui semblait étonnant que, dans la Gaule, sa propriété par le droit de la guerre et de la victoire, il eut quelque chose à démêler avec César ou avec le peuple romain. 35. Cette réponse étant rapportée à César, il envoie de nouveaux députés vers Ariovistes avec les instructions suivantes. Puisqu'après avoir été comblé de bienfaits par le peuple romain et par César, sous le consulat de qui il avait reçu du Sénat le titre de roi et d'ami, pour toute reconnaissance de cette faveur, il refuse de se rendre à l'entrevue à laquelle il est invité, et qu'il ne juge pas à propos de traiter avec lui de leurs intérêts communs, voici ce qu'il lui demande. Premièrement, de ne plus attirer dans la Gaule cette multitude d'hommes venant d'au-delà du Rhin. En second lieu, de restituer aux Éduains les otages qu'il tient d'eux, et de permettre aux Sécanes de rendre ceux qu'ils ont reçus de leur côté. De mettre fin à ces violences envers les Éduains, et de ne faire la guerre ni à eux, ni à leurs alliés. S'il se soumet à ces demandes, il peut compter sur l'éternelle bienveillance et sur l'amitié de César et du peuple romain. S'il s'y refuse, attendu le décret du Sénat rendu sous le consulat de M. Messala et de M. Pison, qui charge le gouverneur de la Gaule de faire ce qui est avantageux pour la République, et de défendre les Éduains et les autres alliés de Rome, il ne négligera pas de venger leur injure. 36. À cela, Ariovistes répondit que, de par le droit de la guerre, le vainqueur pouvait disposer à son gré du vaincu, et que Rome avait coutume de traiter les peuples conquis à sa guise, et non à celle d'autrui. S'il ne prescrit pas aux Romains comment ils doivent user de leurs droits, il ne faut pas qu'il le gêne dans l'exercice du sien. Les Éduains ont voulu tenter le sort des armes et combattre. Ils ont succombé et sont devenus ses tributaires. il a lui-même un grave sujet de plainte contre César, dont l'arrivée diminue ses revenus. Il ne rendra point aux Éduens leurs otages. Il ne fera la guerre ni à eux ni à leurs alliés s'ils restent fidèles à leur convention et paient le tribut chaque année. Sinon, le titre de frère du peuple romain sera loin de leur servir. Quant à la déclaration de César, qu'il ne négligerait pas de venger les injures faites aux Éduens, personne ne s'était encore, sans s'en repentir, attaqué à Ariovistes. Il se mesurerait quand il voudrait. César apprendrait ce que peut la valeur des Germains, nation invincible et aguerrie, qui, depuis 14 ans, n'avait pas reposé sous un toit. Nouvelle plainte contre Ariovistes. 37. Dans le même temps que César recevait cette réponse, il lui venait des députés des Éduens et des Trévires. Les Éduens se plaignaient que les Arudes, nouvellement arrivés dans la Gaule, dévastaient leur pays. Ils n'avaient pu, même en donnant des otages, acheter la paix d'Ariovistes. Les Trévires, de leur côté, l'informaient que 100 cantons des Suèves étaient campés sur les rives du Rhin et tentaient de passer ce fleuve. Ils étaient commandés par 2 frères, Nassua et Cimberios. César, vivement ému de ces nouvelles, vit qu'il n'avait pas un instant à perdre. Il craignit, si de nouvelles bandes de Suèves se joignaient aux anciennes troupes d'Ariovistes, qu'il ne devint moins facile de leur résister. Il fit donc rassembler des vivres en toute hâte et marcha à grande journée contre Ariovistes. César le précède à Besançon. 38. Il était en marche depuis 3 jours, lorsqu'on lui annonça que celui-ci, avec toutes ses forces, se dirigeait contre Besançon, la plus forte place des Sécanes, et que, depuis autant de jours, il avait passé la frontière. César crut devoir faire tous ses efforts pour le prévenir, car cette ville était abondamment pourvue de munitions de toute espèce, et sa position naturelle la défendait de manière à en faire un point très avantageux pour soutenir la guerre. La rivière du Doubs décrit un cercle alentour et l'environne presque entièrement. La partie que l'eau ne baigne pas et qui n'a pas plus de 600 pieds est protégée par une haute montagne dont la base touche de chaque côté aux rives du Doubs. Une enceinte de murs fait de cette montagne une citadelle et la joint à la ville. César s'avance à grande journée, et le jour et la nuit s'en rend maître et y met garnison. Panique de l'armée romaine. 39. Pendant le peu de jours qu'il passa à Besançon, afin de pourvoir aux subsistances et aux vivres, les réponses que faisaient aux questions de nos soldats les Gaulois et les marchands, qui leur parlaient de la taille gigantesque des Germains, de leur incroyable valeur, de leur grande habitude de la guerre, de leur aspect terrible et du feu de leurs regards, qu'ils avaient à peine pu soutenir dans de nombreux combats, jetèrent tout à coup une vive terreur dans toute l'armée. Un trouble universel et profond s'empara des esprits. Cette frayeur commença par les tribuns militaires, par les préfets et par ceux qui, ayant suivi César par amitié, n'avaient que peu d'expérience de la guerre. Les uns, alléguant diverses nécessités, lui demandaient qu'il leur permît de partir. D'autres, retenus par la honte, ne restaient que pour ne pas encourir le reproche de lâcheté. Ils ne pouvaient ni composer leur visage, ni retenir leurs larmes qui s'échappaient quelquefois. Cachés dans leur tente, ils se plaignaient de leur sort ou déploraient avec leurs amis le danger commun. Dans tout le camp, chacun faisait son testament. Ces plaintes et cette terreur ébranlèrent peu à peu ceux-mêmes qui avaient vieilli dans les camps, les soldats, les centurions, les commandants de la cavalerie. Ceux qui voulaient passer pour les moins effrayés disaient que ce n'était pas l'ennemi qu'ils craignaient, mais la difficulté des chemins, la profondeur des forêts qui les séparaient d'Ariovist et les embarras du transport des vivres. On rapporta même à César que, quand il ordonnerait de lever le camp et de porter les enseignes en avant, les soldats effrayés resteraient sourds à sa voix et laisseraient les enseignes immobiles. Discours de César. 40. Ayant réfléchi sur ces rapports, il convoque une assemblée, y appelle les centurions de tous les rangs et leur reproche vivement et d'abord de vouloir s'informer du pays où il les mène et juger ses desseins. Pendant son consulat, Ariovist a recherché avec le plus grand empressement l'amitié du peuple romain. Pourquoi le supposerait-on assez téméraire pour s'écarter de son devoir? Quant à lui, il est persuadé que dès qu'Ariovist connaîtra ses demandes et qu'il en aura apprécié l'équité, il ne voudra renoncer ni à ses bonnes grâces ni à celles des Romains. Si, poussé par une démence furieuse, il se décide à la guerre, qu'y a-t-il donc à craindre et pourquoi désespérer de leur courage et de son activité? Le péril dont les menaçait cet ennemi, leur père l'avait bravé lorsque, sous C. Marius, l'armée repoussant les Cimbres et les Teutons, s'acquit autant de gloire que le général lui-même. Ils l'avaient eux-mêmes bravé tout récemment en Italie, dans la guerre des esclaves, et cet ennemi avait cependant le secours de l'expérience et de la discipline qu'il tenait des Romains. On pouvait juger par là des avantages de la fermeté, puisque ceux qu'on avait, sans motif, redoutés quelque temps, bien qu'ils fussent sans armes, on les avait soumis ensuite, armés et victorieux. Ce peuple, enfin, était le même qu'avait souvent combattu les Helvètes et qu'ils avaient presque aussi souvent vaincu, non seulement dans leur pays, mais dans le sien même, et les Helvètes n'avaient cependant pu résister aux forces romaines. Que s'il en est qu'effraie la défaite et la fuite des Gaulois, ceux-là pourront se convaincre, s'ils en cherchent les causes, que les Gaulois étaient fatigués de la longueur de la guerre, car Ariovist, après s'être tenu plusieurs mois dans son camp et dans ses marais, sans accepter la bataille, les avait soudainement attaqués, désespérant déjà de combattre et dispersés, et les avait vaincus plutôt par adresse et habileté que par le courage. Si de tels moyens ont pu être bons contre des barbares et des ennemis sans expérience, ils n'espéraient pas sans doute les employer avec le même succès contre des armées romaines. Ceux qui cachent leurs craintes sous le prétexte des subsistances et de la difficulté des chemins sont bien arrogants de croire que le général puisse manquer à son devoir ou de le lui prescrire. Ce soin lui appartient. Le blé sera fourni par les sécanes, les leucs, les lingons. Déjà même, il est mûr dans les campagnes. Quant au chemin, ils en jugeront eux-mêmes dans peu de temps. Les soldats, dit-on, n'obéiront pas à ses ordres et ne lèveront pas les enseignes. Ces menaces ne l'inquiètent pas, car il sait qu'une armée ne se montre rebelle à la voix de son chef que quand, par sa faute, la fortune lui a manqué, ou qu'il est convaincu de quelque crime, comme de cupidité. Sa vie entière prouve son intégrité, et la guerre d'Helvétie le bonheur de ses armes. Aussi, le départ qu'il voulait remettre à un jour plus éloigné, il l'avance, et la nuit suivante, à la quatrième veille, il lèvera le camp, afin de savoir avant tout ce qui prévaut sur eux, ou l'honneur et le devoir, ou la peur. Si, cependant, personne ne le suit, il partira avec la 10e Légion seule, dont il ne doute pas, et elle sera sa cohorte prétorienne. César avait toujours particulièrement favorisé cette Légion, et se fiait entièrement à sa valeur. Les troupes, rassurées, marchent contre Ariovist. 41. Cette harangue produisant dans tous les esprits un changement extraordinaire, fit naître la plus vive ardeur et le désir de combattre. La 10e Légion, par l'organe des tribuns militaires, remercia aussitôt César d'avoir aussi bien présumé d'elle et déclara qu'elle était prête à marcher au combat. Ensuite, les autres légions lui députèrent leurs tribuns et les centurions des premiers rangs pour lui adresser leurs excuses. Elle n'avait jamais hésité, ni tremblé, ni prétendu porter sur la guerre un jugement qui n'appartient qu'au général. César reçut leurs excuses, et après s'être enquis du chemin à prendre auprès de Diviciacus, celui des Gaulois dans lequel il avait le plus de confiance, il résolut de faire un détour de 50 000 afin de conduire son armée par un pays ouvert et partit à la 4e veille, comme il l'avait dit. Le 7e jour, il marchait encore quand il apprit par ses éclaireurs que les troupes d'Ariovist étaient à 20 000 pas des nôtres. Entrevue de César et d'Ariovist. 42. Instruit de l'arrivée de César, Ariovist lui envoie des députés. Il acceptait la demande qui lui avait été faite d'une entrevue, maintenant que César s'était approché davantage et qu'il pensait pouvoir le faire sans danger. César ne rejeta point sa proposition. Il crut qu'Ariovist était revenu à des idées plus saines, puisque cette conférence qu'il lui avait d'abord refusée, il l'offrait de son propre mouvement. Il espérait que, dès qu'il connaîtrait ses demandes, le souvenir des insignes bienfaits de César et du peuple romain triompherait de son opiniâtreté. L'entrevue fut fixée au 5e jour à partir de celui-là. Dans cet intervalle, on s'envoya de part et d'autre de fréquents messages. Ariovist demanda que César n'amenât aucun fantassin. Il craignait des embûches et une surprise. Tous deux seraient accompagnés par de la cavalerie. S'il en était autrement, ils ne viendraient point. César, ne voulant pas que la conférence manquât par aucun prétexte, et n'osant commettre sa sûreté à la cavalerie gauloise, trouva un expédient plus commode. Il prit tous leurs chevaux aux cavaliers gaulois et les fit monter par des soldats de la 10e Légion, qui avait toute sa confiance, afin d'avoir, s'il en était besoin, une garde dévouée. Cela fit dire assez plaisamment à un des soldats de cette légion que César les favorisait au-delà de ses promesses, puisqu'ayant promis aux soldats de la 10e Légion d'en faire sa cohorte prétorienne, il les faisait chevaliers. 43. Dans une vaste plaine était un tertre assez élevé, à une distance à peu près égale des deux camps. Ce fut là que, selon les conventions, eut lieu l'entrevue. César plaça à 200 pas de ce tertre la légion qu'il avait amenée sur les chevaux des Gaulois. Les cavaliers d'Ariovist s'arrêtèrent à la même distance. Celui-ci demanda que l'on s'entretînt à cheval et que 10 hommes fussent leur seule escorte à cette conférence. Lorsqu'on fut en présence, César commença son discours par lui rappeler ses bienfaits et ceux du Sénat. Il avait reçu du Sénat le nom de roi, le titre d'ami. On lui avait envoyé les plus grands présents, faveurs accordées à peu d'étrangers, et qui n'était d'ordinaire que la récompense d'éminents services. Il avait, lui, sans y avoir aucun droit, sans titre suffisant pour y prétendre, obtenu ses honneurs de la bienveillance et de la libéralité de César et du Sénat. Il lui rappela aussi les liens aussi anciens que légitimes qui unissaient les Éduens à la République, les nombreux et honorables senatus consultes rendus en leur faveur, la suprématie dont ils avaient joui de tout temps dans la Gaule entière avant même de rechercher notre amitié. L'usage du peuple romain étant de vouloir que ses alliés et ses amis non seulement ne perdissent rien de leur puissance, mais encore gagnasses en crédit, en dignité, en honneur. Comment souffrir que ce qu'ils avaient apporté dans l'alliance romaine leur fût ravi? Il finit par lui réitérer les demandes déjà faites par ses députés, qu'il ne fît la guerre ni aux Éduens, ni à leurs alliés, qu'il rendît les otages, et s'il ne pouvait renvoyer chez eux aucune partie des Germains, qu'au moins il ne permît pas à d'autres de passer le Rhin. 44. Ariovistes répondit peu de choses aux demandes de César et parla beaucoup de son mérite personnel. Il n'avait point passé le Rhin de son propre mouvement, mais à la prière et à la sollicitation des Gaulois. Il n'aurait pas quitté son pays et ses proches sans la certitude d'une riche récompense. Les établissements qu'il possédait dans la Gaule lui avaient été concédés par les Gaulois eux-mêmes. Ils avaient donné volontairement des otages. Ils levaient par le droit de la guerre les contributions que les vainqueurs ont coutume d'imposer aux vaincus. Les Gaulois avaient commencé les hostilités bien loin que ce fut lui. Les peuples de la Gaule étaient venus l'attaquer en masse et poser leur camp en face du sien. Il avait, dans un seul combat, vaincu et dispersé toutes ses forces. S'ils veulent de nouveau tenter le sort des armes, il est de nouveau prêt à combattre. S'il préfère la paix, il est injuste de lui refuser le tribut qu'ils avaient jusque-là payé de leur plein gré. L'amitié du peuple romain devait lui apporter honneur et profit, et non pas tourner à son détriment. Il l'avait recherché dans cet espoir. Si Rome intervient pour lui enlever ses subsides et ses tributaires, il renoncera à son amitié avec autant d'empressement qu'il l'avait désiré. S'il faisait passer dans la Gaule un grand nombre de Germains, c'était pour sa propre sûreté et non pour attaquer les Gaulois. La preuve, c'est qu'il n'était venu que parce qu'on l'avait appelé. Que loin d'être l'agresseur, il n'avait fait que se défendre. Il était entré en Gaule avant les Romains. Jamais avant ce temps, une armée romaine n'avait dépassé les limites de la province. Que lui voulait-on? Pourquoi venait-on sur ses terres? Cette partie de la Gaule était sa province, comme celle-là était la nôtre. De même qu'on ne lui permettait pas d'envahir nos frontières, de même aussi c'était de notre part une iniquité que de l'interpeller dans l'exercice de son droit. Quant au titre de frère que le Sénat avait donné aux Éduens, il n'était pas assez barbare ni assez mal informé de ce qui s'était passé pour ignorer que dans la dernière guerre des Allobroges, les Éduens n'avaient pas envoyé de secours aux Romains, et qu'ils n'en avaient pas reçu d'eux dans leur démêlé avec lui et les Sécanes. Il avait lieu de soupçonner que, sous des semblants d'amitié, César destinait à sa ruine l'armée qu'il avait dans la Gaule. S'il ne l'éloignait pas et ne faisait pas retirer ses troupes, il le tiendrait non pour ami, mais pour ennemi. En le faisant périr, il remplirait les vœux de beaucoup de nobles et des principaux de Rome. Ils le savaient par leurs propres messagers, et sa mort lui vaudrait leur reconnaissance et leur amitié. S'il se retirait et lui laissait la libre possession de la Gaule, il l'en récompenserait amplement et ferait toutes les guerres que César voudrait entreprendre sans fatigue ni danger de sa part. 45. César prouva par beaucoup de raisons qu'il ne pouvait pas se désister de son dessein. Il n'était ni dans ses habitudes ni dans celles du peuple romain d'abandonner des alliés qui avaient bien mérité de la République, et il ne pensait pas que la Gaule appartint plutôt à Ariovistes qu'aux Romains. Q. Fabius Maximus avait vaincu les Arvernes et les Rutènes, et Rome, leur pardonnant, ne les avait pas réduit en province et ne leur avait pas imposé de tribut. S'il fallait s'en rapporter à la priorité de temps, elle serait pour le peuple romain un juste titre à l'empire de la Gaule. S'il fallait s'en tenir au décret du Sénat, elle devait être libre, puisqu'il avait voulu que, vaincue, elle conservât ses lois. 46. Pendant ce colloque, on vint annoncer à César que les cavaliers d'Ariovistes s'approchaient du tertre et s'avançaient vers les nôtres, sur lesquels ils lançaient déjà des pierres et des traits. César mit fin à l'entretien, se retira vers les siens et leur défendit de renvoyer un seul trait aux ennemis. Car bien qu'il jugeât pouvoir, avec les cavaliers de sa légion d'élite, soutenir le combat sans danger, il ne voulait cependant pas donner aux ennemis qu'ils devaient repousser, sujet de dire qu'on les avait surpris à la faveur d'une conférence perfide. Quand on connut dans le camp l'arrogance des paroles d'Ariovistes, la défense par lui faite aux Romains d'entrer dans la Gaule, la brusque attaque de ses cavaliers contre les nôtres, laquelle avait rompu l'entrevue, l'armée en ressentit une impatience et un désir plus vif de combattre. Fourberie d'Ariovistes. 47. Deux jours après, Ariovistes fit dire à César qu'il désirait reprendre les négociations entamées et restées inachevées, le priant de fixer un jour pour un nouvel entretien ou au moins de lui envoyer un de ses lieutenants. César ne jugea pas à propos d'accepter cette entrevue, d'autant plus que la veille on avait pu empêcher les Germains de lancer des traits sur nos troupes. Il sentait aussi qu'il était très dangereux d'envoyer un de ses lieutenants et de l'exposer à la cruauté de ces barbares. Il crut plus convenable de députer vers Ariovistes C. Valerius Procillus, jeune homme plein de courage et de mérite, dont le père, C. Valerius Caburus, avait été fait citoyen romain par C. Valerius Flaccus. Sa fidélité était connue,
et il savait la langue gauloise,
qu'une longue habitude avait rendue familière à Ariovistes, et les Germains n'avaient aucune raison pour le maltraiter. César lui adjoignit M. Metius, qui avait été hôte d'Ariovistes. Il les chargea de prendre connaissance des propositions de ce dernier et de les lui rapporter. Lorsqu'Ariovistes les vit venir à lui dans son camp, il s'écria en présence de ses soldats : « Que venez-vous faire ici ? Est-ce pour espionner ?» Et sans leur donner le temps de s'expliquer, il les jeta dans les fers. Préliminaire de la bataille. 48. Le même jour, il leva son camp et vint prendre position au pied d'une montagne à 6000 pas de celui de César. Le lendemain, il fit marcher ses troupes à la vue de l'armée romaine et alla camper à 2000 pas de là, dans la vue d'intercepter le grain et les vivres qu'expédiaient les Sécanes et les Éduins. Pendant les 5 jours qui suivirent, César fit avancer ses troupes à la tête du camp et les rangea en bataille, pour laisser à Ariovistes toute liberté d'engager le combat. Ariovistes, durant tout ce temps, retint son armée dans son camp et fit chaque jour des escarmouches de cavalerie. Les Germains étaient particulièrement exercés à ce genre de combat. Ils avaient un corps de 6000 cavaliers et d'un pareil nombre de fantassins, des plus agiles et des plus courageux. Chaque cavalier avait choisi le sien sur toute l'armée pour lui confier son salut. Ils combattaient ensemble. La cavalerie se repliait sur eux. Ceux-ci, dans les moments difficiles, venaient à son secours. Si un cavalier grièvement blessé tombait de cheval, il l'environnait. S'il fallait se porter en avant ou faire une retraite précipitée, l'exercice les avait rendus si agiles qu'en se tenant à la crinière des chevaux, il les égalait à la course. 49. Voyant qu'Ariovistes se tenait renfermé dans son camp, César, afin de n'être pas plus longtemps séparé des subsistances, choisit une position avantageuse à environ 600 pas au-delà de celle que les Germains occupaient, et ayant formé son armée sur 3 lignes, il vint occuper cette position. Il fit tenir la première et la seconde sous les armes et travailler la troisième au retranchement. Ce lieu était, comme nous l'avons dit, à 600 pas à peu près de l'ennemi. Ariovist détacha 16 000 hommes de troupes légères avec toute sa cavalerie pour effrayer nos soldats et interrompre les travaux. Néanmoins, César, selon qu'il l'avait arrêté d'avance, ordonna aux deux premières lignes de repousser l'attaque, à la troisième de continuer le retranchement. Le camp, une fois fortifié, César y laissa deux légions et une partie des auxiliaires, et ramena les quatre autres au camp principal. 50. Le lendemain, selon son usage, il fit sortir ses troupes des deux camps, et s'étant avancé à quelque distance du grand, il les mit en bataille et présenta le combat aux ennemis. Voyant qu'ils ne faisaient aucun mouvement, il fit rentrer l'armée vers le milieu du jour. Alors seulement, Ariovist détacha une grande partie de ses forces pour l'attaque du petit camp. Un combat opiniâtre se prolongea jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Ariovist retira ses troupes. Il y eut beaucoup de blessés de part et d'autre. Comme César s'enquérait des prisonniers pourquoi Ariovist refusait de combattre, il apprit que c'était la coutume chez les Germains de faire décider par les femmes, d'après les sorts et les règles de la divination, s'il fallait ou non livrer bataille, et qu'elles avaient déclaré toute victoire impossible pour eux s'ils combattaient avant la nouvelle lune. Défaite des Germains. 51. Le jour suivant, César laissa dans les deux camps une garde qui lui parut suffisante et plaça en présence des ennemis toutes les troupes auxiliaires, en avant du petit. Comme le nombre des légionnaires était inférieur à celui des Germains, les alliés lui servirent à étendre son front. Il rangea l'armée sur trois lignes et s'avança contre le camp ennemi. Alors, les Germains, forcés enfin de combattre, sortirent de leur camp et se placèrent, par ordre de nation, à des intervalles égaux, Arude, Marcoman, Triboc, Vangion, Németh, Sédusien, Suève. Ils formèrent autour de leur armée une enceinte d'équipages et de chariots, afin de s'interdire tout espoir de fuite. Placés sur ces bagages, les femmes tendaient les bras aux soldats qui marchaient au combat et les conjuraient en pleurant de ne les point livrer en esclavage aux Romains. 52. César mit à la tête de chaque légion un de ses lieutenants et un questeur pour que chacun eût en eux des témoins de sa valeur. Il engagea le combat par son aile droite, du côté où il avait remarqué que l'ennemi était le plus faible. Au signal donné, les soldats se précipitèrent avec une telle impétuosité et l'ennemi accourut si vite qu'on n'eut pas le temps de lancer les javelots. On ne s'en servit point et l'on combattit de près avec le glaive. Mais les Germains, ayant promptement formé leur phalange accoutumée, soutinrent le choc de nos armes. On vit alors plusieurs de nos soldats s'élancer sur cette phalange, arracher avec la main les boucliers de l'ennemi et le blesser en le frappant d'en haut. Tandis que l'aile gauche des Germains était rompue et mise en déroute, à l'aile droite, les masses ennemies nous pressaient vivement. Le jeune P. Crassus, qui commandait la cavalerie, s'en aperçut, et plus libre que ceux qui étaient engagés dans la mêlée, il envoya la troisième ligne au secours de nos légions ébranlées. 53. Le combat fut ainsi rétabli. Tous les ennemis prirent la fuite et ne s'arrêtèrent qu'après être parvenus au Rhin, à 50 000 pas environ du champ de bataille. Quelques-uns, se fiant à leur force, essayèrent de le passer à la nage. D'autres se sauvèrent sur des barques. De ce nombre fut Ariovist qui, trouvant une nacelle attachée au rivage, s'échappa ainsi. Tous les autres furent taillés en pièces par notre cavalerie qui s'était mise à leur poursuite. Ariovist avait deux femmes, la première, Suève de Nation, qu'il avait amené avec lui de sa patrie. La seconde, native du Noric, sœur du roi Vauxion, et qu'il avait épousée dans la Gaule, quand son frère la lui eut envoyée, toutes deux périrent dans la déroute. De leurs filles, l'une fut tuée et l'autre prise. C. Valerius Procillus était entraîné, chargé d'une triple chaîne, par ses gardiens fugitifs. Il fut retrouvé par César lui-même, qui poursuivait l'ennemi à la tête de la cavalerie. Cette rencontre ne lui causa pas moins de plaisir que la victoire même. L'homme le plus considéré de la province, son ami et son hôte, était arraché des mains des ennemis et lui était rendu. La fortune n'avait pas voulu troubler par une telle perte sa joie et son triomphe. Procillus lui dit qu'il l'avait vu trois fois consulter le sort pour savoir s'il serait immédiatement brûlé ou si on renverrait son supplice à un autre temps, et que le sort favorable l'avait sauvé. M. Metius fut aussi rejoint et ramené à César. Quartier d'hiver. 54. Le bruit de cette victoire étant parvenu au-delà du Rhin, les Suèves, qui étaient déjà arrivés sur les bords de ce fleuve, regagnèrent leur pays. Les habitants de la rive, les voyant épouvantés, les poursuivirent et en tuèrent un grand nombre. César, après avoir ainsi terminé deux grandes guerres en une seule campagne, conduisit l'armée en quartier d'hiver chez les Sécanes, un peu plus tôt que la saison ne l'exigeait. Il en confia le commandement à Labienus et partit pour aller tenir les assemblées dans la Gaule citérieure. Fin du livre 1.